Je crois que la personne qui écrit ces livres pour les enfants, c'est la personne qui est restée dans la cuisine.
Marie Desplechin.
C'est-à-dire, il y a, dans celle qui écrit, il y a à la fois celle qui fait à manger, et après, il y a à la fois celle qui s'attable et qui dit « c'est bon ». Le plaisir que j'ai à écrire pour les enfants, c'est d'être ces deux personnes, c'est-à-dire de retrouver, c'est, je ne sais pas comment dire, c'est même pas l'esprit de l'enfance, c'est l'âme de l'enfance.
Ça peut pas faire de mal.
Ein omanut amitit. Aaron Appelfeld.
Il n'y a pas d'art véridique sans l'enfant qui est en nous.
Shomer al ezeshihi timimut.
Cet enfant est le gardien d'une certaine candeur.
Sonne o lohev tziniut.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ironia.
Ça peut pas faire de mal.
Dumashmaut.
Il déteste ou n'aime pas le cynisme, l'ironie, l'ambiguïté. Il accueille la réalité et il l'intègre.
La chambre de Victoria était très simple. Elle n'était pas comme les autres. Il n'y avait pas le mur de cartes postales épinglées au-dessus du bureau, rempli de surfeurs, de poneys et de paysages d'automne. Il y avait seulement à la hauteur de ses yeux une longue étagère unique, remplie de livres, qui faisait le tour de la chambre. Cette ligne de livres, Victoria l'appelait l'horizon. Depuis quelques semaines, chaque jour, des livres disparaissaient étrangement de l'horizon. Sur un carnet, elle avait fait le décompte de ces disparitions. Cela avait commencé par le coin des pirates, près de la porte. 3 livres en un seul jour, puis 2 romans d'amour, quelques jours plus tard, et Alice au pays des merveilles. Et beaucoup d'autres envolés. L'horizon se réduisait sous ses yeux. Le lendemain matin, quand elle se réveilla, Victoria s'étira et regarda l'horizon. D'autres livres avaient encore disparu de sa chambre. Il manquait le grand Cyrano et 2 petits volumes de poésie. Elle poussa la porte, marcha pieds nus dans la maison. Elle entra dans la salle à manger. Il régnait un silence inhabituel, un silence de mort. Elle fit un pas. Personne n'est obligé de croire ce qui va suivre. On a toujours le droit de ne pas croire ce qui est écrit dans les livres. On pourra dire encore « Victoria rêve ». Mais quand elle se tourna vers le coin de la pièce, quand ses yeux fouillèrent l'ombre, la grande horloge n'était plus là. Cette grande horloge de 2 mètres était la seule présence qui réconfortait Victoria dans la maison, le seul bel objet, la seule voix ancienne. Souvent, Victoria pensait à tout ce qu'avait entendu cette dame au fil de sa longue vie, des disputes et des retrouvailles, des meurtres peut-être, des déclarations d'amour. Si elle avait été cette horloge, Victoria savait qu'elle se serait déjà évadée, ouvrir la fenêtre, partir. Qui eût remarqué une horloge en fuite dans ces rues où personne ne regardait personne? Enveloppée dans une cape noire, elle aurait sauté dans un train vers le sud. Elle ne serait plus jamais revenue. Ce matin-là, l'horloge était bel et bien partie, en ne laissant derrière elle qu'un petit tas de poussière. Une petite fille au tempérament aventurier, des disparitions mystérieuses. Nous voici dans l'imaginaire d'un écrivain passionnant, Timothée de Fombelle, auteur de Victoria rêve, mais aussi des sagas à succès, Toby Lolness et Van Gogh. Son dernier roman, Le Livre de Perles, a été primé au Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil. J'aurai la chance d'être aux côtés de Timothée de Fombelle l'an prochain pour présider la 3e édition du concours Les Petits Champions de la Lecture, organisé par le Syndicat National de l'Édition et parrainé par la Comédie Française. Ce concours s'adresse à tous les élèves de classe de CM2. Vous pouvez d'ailleurs encore vous inscrire jusqu'au 5 janvier 2015 sur le site internet www.lespetitschampionsdelalecture.fr. Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir les 2 lauréats de cette année, les 2 champions, une fille et un garçon, vainqueurs ex aequo. Lina, qui est en studio avec nous à Paris, à mes côtés. Bonsoir Lina.
Bonsoir Guillaume.
Et nous accueillons en duplex, depuis la ville de Nantes où il habite, notre autre champion, Philémon. Bonsoir Philémon.
Bonsoir Guillaume.
À quelques jours de Noël, nous allons ensemble parcourir quelques belles pages de la littérature jeunesse actuelle pour donner envie aux petits comme aux grands de plonger dans les livres. Honneur aux filles. Et commençons avec toi, Lina. Tu as 11 ans, tu es en classe de 6e au Collège du Sacré-Cœur à Versailles. Tu as gagné donc le concours des petits champions de la lecture avec un extrait du roman d'Agnès Lacor, « Deux familles pour Lulu », publié chez Bayard Jeunesse. C'est l'histoire de Lulu, un garçon de 10 ans qui ne connaît pas son père et n'a jamais vécu avec sa mère. Dans le passage suivant, il se voit placé pour la deuxième fois dans une famille d'accueil. Le voici à son arrivée chez une certaine Monique Fournier. C'est l'extrait que tu as choisi de nous faire découvrir.
Dès que je suis installée, elle pose une assiette et des couverts devant moi. Puis, avec une louche, elle fouille dans une marmite qui chauffe à petit feu sur la cuisinière. Elle en sort des légumes fumants qui ne me font pas envie. Des navets, des pommes de terre, des poireaux, des carottes et des choux de Bruxelles. Burk ! Ben quoi ? T'en fais une tête ? Ça ne te plaît pas ? S'exclame-t-elle en rajoutant une tranche de jambon sur mes légumes. « Si, si, » dis-je en contemplant le potager qui nage dans un bouillon couleur eau de vaisselle. J'attaque mon plat, sans enthousiasme. J'aime mieux ça, parce que je n'aime pas les difficiles. Ce n'est pas un restaurant 3 étoiles ici. Et avec le chèque que je touche chaque mois, je ne peux pas vous faire de la gastronomie, moi. Bon ben, je te laisse manger, c'est l'heure de mon feuilleton à la télé. Le nez dans mon assiette, je pousse un soupir. Un soupir qui vient du fond de moi. Une fois de plus, tous mes espoirs tombent à l'eau. La famille idéale, j'en ai si souvent rêvé. Je peux presque la voir tellement je l'ai imaginée. Le père, grand et fort, qui jouerait au basket avec moi et m'emmènerait camper. Il m'apprendrait le nom des planètes et des étoiles. Car il serait super calé en astronomie. J'adore les planètes et les étoiles. La mère, elle ferait les meilleurs éclairs au chocolat du monde. Elle me prendrait dans ses bras quand je suis triste. Elle serait docteur et elle sauverait des enfants gravement malades. J'aurais une grande sœur, très belle, qui m'accompagnerait au cinéma. Et un petit frère que je protégerais et à qui je donnerais des conseils. Et surtout, il m'aimerait tout le temps. Même quand je fais des bêtises ou que je suis de mauvaise humeur. Mais je ne suis pas bête. Dans la vie, ce n'est pas comme ça. En tout cas, pas pour moi. J'en suis loin de mes rêves et ils s'éloignent de plus en plus. Parfois, j'imagine que je colle des affiches dans toute la ville. Il y aurait écrit en gros « Avis de recherche ». Et juste en dessous de ma photo, un texte qui dirait « Lulu, 10 ans, cherche famille idéale avec parents sympas, frères et sœurs de préférence. Les gens voudraient tellement m'adopter qu'on m'appellerait de partout et je n'aurais plus qu'à choisir la famille que je préfère. Faut que j'arrête avec les rêves. En vrai, la dame Fournier est vert foncé, comme le ciel pourri de cette journée pourrie. Je vois toujours des couleurs partout. La famille de mes rêves, elle serait gris-bleu, comme les yeux de ma mère. C'est une couleur douce qui me fait du bien.
Toi, le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble? Un an après moi, tu serais né. Alors on se serait plus quitté comme deux amis qui se ressemblent. On aurait appris l'argot par cœur, j'aurais été ton professeur à mon école buissonnière. Sûr qu'un jour on se serait battu, pour peu qu'alors on ait connu ensemble la même première. N'est pas là, à qui la faute?
pas à mon père. Pas à ma mère. Tu aurais pu chanter cela. Toi, frère, que je n'ai jamais eu, si tu savais ce que j'ai bu de mes chagrins en solitaire. Si tu ne m'avais pas fait faux bond, tu aurais fini mes chansons, je t'aurais appris à en faire. Si la vie s'était comportée mieux, elle aurait divisé en deux les paires de gants, les paires de claques. Elle aurait sûrement partagé les mots d'amour et les pavés, les filles et les coups de la traque. Mais tu n'es pas là. À qui la faute? Pas à mon père. Pas à ma mère. Tu aurais pu chanter cela. Toi, le frère que je n'aurais jamais, je suis moins seul de t'avoir fait pour un instant, pour une fille. Je t'ai dérangé, tu me pardonnes. Ici, quand tout vous abandonne, on se fabrique une famille.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Découvrons à présent les tracas d'une famille nombreuse. Bonsoir Philémon, ça va être à toi. Donc tu es en classe de 6e au collège Victor Hugo à Nantes. Tu as gagné toi aussi le concours des petits champions de la lecture avec un extrait d'une saga familiale que tu adores, Les histoires des gens quelque chose, de Jean-Philippe Arouvignaud, publié chez Gallimard Jeunesse. Dans cette famille de 6 garçons, la particularité est qu'ils ont tous le même prénom, Jean. Leurs parents les distinguent en les appelant Jean A, Jean B, Jean C, etc. Voici l'extrait que tu as choisi. C'est bientôt l'anniversaire de l'aîné, Jean A, qui est au lycée. Et selon son frère Jean B, Jean A est vraiment entré dans l'âge bête.
Ce qui a fait toute une histoire, c'est l'anniversaire de Jean A. Mes copains ont tous des parents hyper compréhensifs, il a dit. Pourquoi je serais le seul garçon à ne pas pouvoir organiser une boum pour mon anniversaire? Une quoi? A demandé papa. Un après-midi dansant, a traduit maman. Un après-midi dansant à la maison. J'ai bien peur que oui, a confirmé maman. Ils se sont regardés, tous les deux, comme s'ils venaient de découvrir un colis piégé au milieu du salon. Et qui comptes-tu inviter à cette boum? A finalement demandé maman. Des gens de la classe, a expliqué Jean A en rougissant jusqu'aux oreilles. Il veut dire des garçons et des filles, a traduit papa. Des filles, a répété maman. À la maison, mais pourquoi faire? Visiblement, elle n'avait jamais imaginé que ça puisse arriver un jour. Je crains que des cavalières ne soient indispensables dans un après-midi dansant, a observé papa. Ils ont dû se replonger dans leur livre d'éducation avant de donner une réponse, parce qu'on n'en a plus entendu parler durant quelques jours.
S'ils disent non, je commence une grève de la faim illimitée, a menacé Jean A.
Quand la réponse est tombée, j'ai cru qu'il allait exploser de joie. Autorisation exceptionnelle accordée, a résumé papa à contre-cœur.
Il ne sera pas dit que nous serons les seuls parents rétrogrades du monde civilisé. Mais pas question que les petits et les moyens assistent à cette petite sauterie. Elle aura lieu dans ta chambre et je me réserve le droit d'y passer une tête de temps en temps pour contrôler le bon déroulement des festivités. Merci papa, merci maman, s'est écrié Jean-A en leur sautant dans les bras. Vous êtes vraiment les vieux les plus cool de... Pardon ? A fait papa. Les deux plus choux de tous les parents. J'aime mieux ça, a dit papa. Et comme c'est aussi la chambre de Jean-B, je compte sur toi pour l'intégrer à votre petit groupe, c'est bien entendu. Si tu crois qu'un scout marin va me gâcher ma boum, a prévenu Jean-A quand on s'est retrouvés tous les deux. Tu peux toujours te brosser. Ordre de papa, j'ai dit. Tu préfères que je sois au milieu de tes copines en pyjama à vous regarder vous trémousser comme des malades ? Il est devenu vert de rage. C'est mon anniversaire. C'est aussi ma chambre. D'accord, a fait Jean-A avec un soupir exaspéré. Tu peux venir, mais comme un larbin, seulement pour t'occuper du buffet. Tu me prends pour une banane. J'invite des copains ou rien. D'accord, il a dit. Justin, alors, et pas question que ce minus et toi dansiez avec une seule de mes copines. Aucun risque, je ne danse pas avec les asperges. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'un slow, a ricané Jean-A. Bien sûr que si, c'est quand on tient une fille dans ses bras et qu'on marche sur place comme des robots. N'importe quoi, il a dit. Je t'ai vu t'entraîner en cachette avec un balai, j'ai ricané. Moi ? Répète un peu pour voir.
Loin du tumulte des adolescents, découvrons la douceur de la relation père-fille. Voici un extrait de l'unique roman jeunesse écrit par l'un des plus grands écrivains contemporains, salué cet automne par le prix Nobel de littérature, Patrick Modiano. Le livre porte le nom de son héroïne, Catherine Certitude. Il a été publié en 1988 chez Gallimard avec des illustrations de Sampé, le génial Sampé. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit seule avec son père à une époque que l'on devine être celle de la Seconde Guerre mondiale, sans que la guerre ne soit jamais mentionnée. Sa mère, danseuse, est partie vivre en Amérique. Son père travaille dans une étrange boutique d'import-export. Entre Catherine et son père s'est tissée une tendre complicité, comme un rempart contre les menaces du monde extérieur. Nous habitions au-dessus d'une sorte de magasin dont papa baissait chaque soir, à 7 heures, le rideau de fer. Cela ressemblait au local des gares de province où l'on consigne et où l'on expédie des bagages. Il y avait toujours des caisses et des paquets empilés les uns sur les autres. Et une balance, dont le vaste plateau, au ras du sol, était fait pour supporter des poids importants, puisque son cadran indiquait jusqu'à 300 kilos. Je n'ai jamais rien vu sur le plateau de cette balance, sauf papa. Au rare moment où M. Castérade, son associé, était absent, papa se tenait immobile et silencieux au milieu du plateau de la balance, les mains dans les poches, le visage incliné. Il fixait d'un regard pensif le cadran de la balance dont l'aiguille marquait, je m'en souviens, 67 kilos. Quelquefois, il me disait « Tu viens, Catherine ?» et j'allais le rejoindre sur la balance. Nous restions là tous les deux, les mains de papa sur mes épaules. Nous ne bougions pas. Nous avions l'air de prendre la pose devant l'objectif d'un photographe. J'avais ôté mes lunettes et papa avait ôté les siennes. Tout était doux et brumeux autour de nous. Le temps s'était arrêté. Nous étions bien. Un jour, M. Castérade, l'associé de papa, nous avait surpris sur cette balance. « Qu'est-ce que vous faites là ? » avait-il demandé. Le charme était rompu. Nous avions remis nos lunettes, papa et moi. « Vous voyez bien que nous nous pesons, » avait dit papa. Sans daigner nous répondre, il avait disparu d'un pas nerveux tout au fond derrière la paroi vitrée, là où deux gros bureaux de noyer se faisaient face avec leurs chaises pivotantes, le bureau de papa et celui de M. Castérade. C'est après le départ de maman que M. Castérade a commencé de travailler avec papa. Maman est américaine. À 20 ans, elle appartenait à une troupe de danseuses venues en tournée à Paris. Elle avait fait la connaissance de mon père. Ils s'étaient mariés et maman avait continué à danser à Paris dans les music-halls, l'Empire, le Tabarin, l'Alhambra. J'ai gardé tous les programmes. Mais elle avait le mal du pays. Au bout de quelques années, elle avait décidé de retourner en Amérique. Papa lui avait promis que nous irions la rejoindre là-bas dès qu'il aurait réglé ses affaires commerciales. Voilà du moins les explications qu'il me donnait. Mais plus tard, j'ai compris qu'il y avait, au départ de maman, d'autres raisons. Chaque semaine, papa et moi recevions l'un et l'autre une lettre d'Amérique dont l'enveloppe était bordée de petites barres rouges et bleues. La lettre de maman finissait toujours par « Catherine, je t'embrasse très forte, ta maman qui pense à toi ». Maman faisait quelquefois une faute d'orthographe. Un jour, papa m'a demandé « Ma petite Catherine, ça ne te plairait pas d'être une danseuse, toi aussi, comme maman ?» Je me souviens de mon premier cours de danse. Papa en avait choisi un dans le quartier rue de Maubeuge. Notre professeur, Madame Galina Dismailova, s'est dirigée vers moi. « Il faudra que tu danses sans lunettes. » Au début, j'enviais mes camarades qui ne portaient pas de lunettes. Tout était simple pour elle. Mais à la réflexion, je me suis dit que j'avais un avantage. Vivre dans deux mondes différents, selon que je portais ou non des lunettes. Et le monde de la danse n'était pas la vie réelle, mais un monde où l'on sautait et où l'on faisait des entrechats au lieu de marcher simplement. Oui, un monde de rêves, comme celui flou et tendre que je voyais sans mes lunettes. Restons dans cette période de l'histoire avec l'aventure bouleversante d'enfants réfugiés. Voici un extrait du premier livre pour enfants d'un autre grand écrivain contemporain, Aaron Apfelfeld. Né dans une famille juive roumaine, il a fui le ghetto de Tchernovitz à l'âge de 8 ans et a survécu en se réfugiant dans la forêt. C'est sa propre histoire qu'il raconte dans son livre « Adam et Thomas » publié à l'École des loisirs dans une traduction de Valérie Zenati et qui vient de recevoir le prix du meilleur livre de l'année du magazine Lire. À travers le récit de deux garçons livrés à eux-mêmes dans la nature, l'écrivain transforme ses souvenirs personnels en une fable universelle. Dans le passage suivant, c'est un peu comme si le petit pousset rencontrait la petite fille aux allumettes. Retrouvons Adam et Thomas, donc à l'abri d'un arbre où ils se sont fabriqués un nid de fortune. Une fillette, qui travaille dans une ferme voisine, leur apporte régulièrement de la nourriture.
La neige ne tarda pas à venir, mêlée à la pluie au début, avant de s'épaissir et de blanchir. Mina continuait à déposer des paquets près de leur arbre. « Que ferions-nous sans notre ange ?» s'écria Adam. La veille, ils avaient vu Mina sortir de l'obscurité de la forêt, posant un petit paquet sur la neige avant de disparaître. Ses mouvements étaient légers, aériens. On eût cru qu'elle ne touchait pas le sol. Quel courage il faut pour envelopper une tourte et du fromage dans du papier et sortir de la maison en cachette, dit Thomas. C'est une petite fille d'un autre monde, dit Adam, effrayé par les paroles qui lui avaient échappé. Ils descendirent voir ce qu'elle leur avait apporté. Cette fois, le paquet contenait une part de gâteau, une tranche de pain et deux morceaux de sucre. J'ai l'impression que c'est Mina qui a fait le gâteau, fit Adam. Comment le sais-tu ? C'est mon cœur qui me le dit. Le froid s'intensifie. Si nous allions chez le fermier, comme nos mères nous l'avaient recommandé, proposa Thomas. Adam le dévisagea. Ce n'est pas bien de quitter la forêt en ces temps difficiles. Elle nous a protégés jusque-là. J'ai l'impression que nous pourrons tenir. Le froid pénètre dans mes doigts et les mords. Moi aussi. Vite, frottons-les. Nous avons été de longs mois dans la forêt. Nous avons dominé la peur et combattu le manque. Maintenant, nous avons un ange qui veille sur nous. Et de notre côté, nous allons faire notre possible pour surmonter le froid. Adam, tu ne cesses de m'étonner. Tu dois te renforcer et être sûr de toi, Thomas. Quand nous nous sommes rencontrés, tu ne savais pas grimper à un arbre. Tu ne savais pas marcher comme il faut dans la forêt. Maintenant, tu es souple et agile comme un écureuil. Je ne suis pas encore parvenue à ton niveau. Il n'y a pas de raison d'être en compétition. Chacun doit être fidèle à lui-même. La neige tombait sans fin. Des flocons épais qui se déversaient du ciel, serrés les uns contre les autres. Parfois, des grondements déchiraient le ciel. La nuit fut glacée. Juste avant l'aube, ils virent une petite silhouette enveloppée dans une couverture, avançant en vacillant dans la neige. Elle progressait difficilement et s'arrêtait tous les quelques pas. Elle donnait l'impression d'être sur le point de s'évanouir ou d'être blessée, luttant contre le vent. Ils se dépêchèrent de descendre vers elle. Ils avaient reconnu Mina. Elle avait le visage en sang et respirait difficilement. Adam et Thomas passèrent leurs bras autour d'elle pour la soutenir et la porter jusqu'à l'arbre, délicatement. Ils la montèrent jusqu'au nid et commencèrent à la soigner. Ils rincèrent son visage, ses bras et ses jambes étaient également meurtris. « Que s'est-il passé, Mina ?»« N'aie pas peur. Nous allons te protéger, Thomas et moi. » À présent qu'il l'avait enveloppée dans des vêtements, ils prirent de nouveau conscience de son poids léger. Elle ne pesait presque rien. Les grondements avaient cessé à l'horizon. La neige s'intensifiait d'heure en heure. Et la couche au sol atteignit 1 mètre de hauteur. Ils se blottirent tous les trois. La couverture que Mina avait apportée avec elle ajoutait une épaisseur supplémentaire à leur protection. Mais le froid les pénétrait tout de même, mordant et douloureux. Ils frottèrent les mains et la plante des pieds de Mina pour l'arracher à la faiblesse qui l'avait envahie. Ils lui donnèrent du lait en le versant goutte à goutte entre ses lèvres. Elle entr'ouvrit rapidement les yeux avant de les refermer de nouveau. Adam se pencha tout près du visage de Mina pour lui murmurer. « Encore un petit effort, Mina. Nous approchons de la fin de la guerre. » Bientôt l'armée rouge sera là et nous libérera.
I was slung low and so gung ho for anything to get me to start. I had my rock, I had my roll, but I couldn't find the spark. A flip but a high five, a glimpse of the good life, and the clouds began to fade. I'm turning this B-side around to a delight.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Revenons à notre époque et au plaisir, pas toujours inoffensif, de la neige. Découvrons à présent le 3e livre jeunesse d'une romancière qui met tout son humour au service des ados, Claire Castillon. Son dernier livre, paru cet automne à l'école des loisirs, s'intitule « Tu es si mignon parce que tu es un peu nul ». C'est l'histoire de Quentin, un garçon noir adopté qui souffre de son identité bicolore. Comme tous les enfants de son âge, il est amoureux. Comme tous les amoureux, le voilà qui se ridiculise dès le premier jour de classe de neige. La pente m'effraie. Par solidarité, je partage les peurs des enfants à lunettes. Plutôt que de skier, je resterai volontiers dans le jardin à regarder Lydie s'éloigner, de dos, juste pour le plaisir de la voir revenir, de face, les yeux auréolés par les marques de son masque de ski. Lydie, c'est mon amoureuse qui ne le sait pas. Mon copain Blex a essayé de la faire asseoir à côté de moi dans le car et le fiasco a été total. Au moment du pique-nique, j'ai déballé mon œuf dur et elle a changé de place, dégoûtée par l'odeur de mon déjeuner. Je vais finir par penser qu'elle est raciste. Blex m'a aussitôt rejoint et m'a demandé comment je pouvais supporter une telle pimbèche. D'ailleurs, là-haut, sur les sommets, Lydie s'acoquine davantage d'heure en heure avec un encadrant, membre de l'auberge de jeunesse, chargé de nous surveiller avec 2 autres encadrants. Ils nous racontent le déroulé du séjour. Ils articulent comme si on avait 6 ans. Je me demande à quel moment je serai le moins ridicule, sur des skis, un tire-fesses ou dansant à la boum de fin de séjour. Imaginez ma tête noire sur mon corps blanc, revêtu de la combinaison rouge et verte que maman s'est crue obligée de m'offrir, dévalant une piste, que dis-je, dégringolant sur une piste, me donne déjà des sueurs froides. « Regarde comme elle est sympa !» s'était écriée maman, sortant la combinaison d'un sac. J'ai d'abord cru à un déguisement de Superman, puis j'ai compris que c'était sérieux. J'ai dit « super » et j'ai ajouté « merci ». Une descente de fin de journée vient d'être inventée par nos encadrants. Je n'apprécie guère les mouvements de foule. Je veux montrer à Lydie qu'en homme de 11 ans, je ne suis pas du genre à répondre aux coups de sifflet. Alors je termine ma tartine, tentant un air poético-rêveur non sportif. Mais Mitch me demande de passer la deuxième et Blex rit. Lydie lance « Avec lui, c'est souvent la marche arrière. Va falloir vous habituer. » Vite, je cache mon oreille sous mon cœur. Et la réflexion de Lydie me passe au-dessus de la tête. Un peu à la façon du télésiège 12 minutes plus tard, lorsqu'il faut attendre derrière une petite barrière que je viens de forcer malgré moi, glissant allègrement sans parvenir à freiner. Hélas, tenir un forfait, 2 bâtons et 1 poteau est au-dessus de mes forces. Le forfait tombe par terre. « Tu l'as pas attaché à la boutonnière ?» me crie Marie-Claude, l'encadrante. « Non, je veux avoir l'air adulte devant Lydie. » Un peu comme avec les clés de la maison. Maman me les a confiées pour mes 10 ans, à condition que je les porte en collier à mon cou comme une vache sa clochette. Mais dès que je me trouve face à Lydie, je les glisse dans ma poche. Aujourd'hui, j'ai 11 ans. Je suis un homme équipé d'une montre et je me refuse à accrocher mon forfait à la boutonnière. Je descends ma première pente. Ski parallèle, oubliant toutes mes notions de chasse-neige, je dévale la pente, jambes raides, sourd au conseil de Marie-Claude me hurlant de plier les genoux. Je vois la classe rassemblée au loin, prête à partir pour un nouveau tour de télésiège. Je distingue le bonnet rose de Lydie et le bonnet jaune de Timothée juste à côté du sien. 2 boules de glace, fraise passion. Je compte bien leur servir de cuillère et me planter entre deux. J'ai des ailes. Je vais contrôler un dérapage et doubler la file. Je vois très bien par où passer pour atterrir pile là où mon destin m'attend. Mais quelle n'est pas ma surprise de constater que je mets plus de temps à freiner qu'à bicyclette. Je continue ma route à vive allure et dépasse la file d'attente. Mon chasse-neige ne répond pas. Marie-Claude vocifère « Dans l'autre sens, Quentin, rapproche l'avant de tes skis, pas l'arrière !» Il me faut 80 mètres supplémentaires pour me casser la figure. Je dégage la neige de mon visage. Je cherche du regard mon pied. Je le trouve dans l'axe de la pente, mais pas dans celui de mon genou. Au loin, je distingue 2 boules jaunes et roses s'envoler dans le ciel, comme 2 joyeux ballons indépendants. Et je hurle. Restons dans l'univers du collège et découvrons des ados pas tout à fait comme les autres. Après les succès de Verte et Pomme, voici Mauve, le 3e volet de la saga des sorcières, imaginée par Marie Desplechin à l'école des loisirs. L'arrivée de Mauve, une nouvelle, au collège, bouleverse la vie des 2 copines. Harcèlement, bagarre, les 3 filles ne se supportent pas. Mauve serait-elle comme Verte et Pomme, une apprentie sorcière et donc leur rivale? Voici ce qu'en pense leur meilleure amie, Sophie, qui partage leurs secrets et les mêmes dons magiques.
Je ne pensais pas que c'était grave. Tout le monde a vu des gens se faire harceler au collège. En général, il suffit d'être patient et d'attendre que ça passe. Les méchants finissent par se fatiguer. Quand Verte et Pomme m'ont raconté ce qui leur arrivait, j'ai pensé que ce n'était pas drôle pour elles, mais qu'elles sauraient se défendre. Elles ont les pouvoirs de se venger, et je crois qu'elles s'en sont servies une fois ou deux, même si elles n'en ont pas le droit. Je me souviens de cette histoire de la piscine, où les filles s'étaient couvertes de poils, et après, tout le monde avait dit que c'était une intoxication alimentaire. Elles en ont rigolé pendant des semaines. Donc, quand Verte m'a dit que les gens étaient tout le temps après elle, j'ai pensé que c'était normal et que ça passerait comme la pluie. J'ai eu tort. Dans la vie, il arrive qu'on se trompe à cause d'idées trop faciles que l'on a. Je ne l'avais pas comprise avant, je l'ai appris. Notre premier ennemi, ce sont toujours les idées trop faciles. J'ajoute que dans mon cas, il était spécialement compliqué de mesurer l'importance des événements parce que nous ne sommes pas dans le même collège. Depuis que j'ai déménagé, nous nous voyons à l'entraînement de foot ou pendant le week-end. Pourtant, en dehors de ma famille, Verte est la personne que j'aime le plus au monde. En deuxième, j'aime Pomme. Je ne peux pas dire que je les aime à égalité, étant donné que j'ai d'abord rencontré Verte, et pour des raisons sentimentales par ailleurs. Mais si je n'aimais pas autant Verte, j'aimerais peut-être Pomme de cette façon sentimentale. Encore que je n'en sais rien, je m'embrouille. Toute la nuit, j'ai rêvé de cette nouvelle personne malfaisante, Mauve. Elle m'apparaissait le plus souvent sous la forme indécise d'une méduse, ce qui m'a donné un certain nombre d'idées. J'ai donc appelé Verte le lendemain, à l'heure du dîner. « Cette fille, elle arrive et d'un seul coup elle est votre ennemie, comme si elle vous connaissait avant. » C'est bizarre parce que d'habitude on attend de connaître les gens avant de les détester. Je sais bien, et le plus bizarre, c'est qu'elle a été tout de suite populaire, comme si tout le collège l'attendait. Je le dis en passant, même si ce n'est pas le moment. Oh, j'adore parler avec Verte quand on se comprend tellement bien. C'est comme si on était les deux mains du même corps, ou les deux hémisphères du même cerveau, ou les deux côtés de la même table de ping-pong. Tu n'as jamais pensé qu'elle pouvait être comme toi? C'est-à-dire sorcière? Bah, si c'était le cas, je l'aurais reconnue. Ou alors c'est elle qui m'aurait trouvée. Tu penses que c'est une simple vivante? Quoi d'autre? Je n'ai pas su répondre. Dans mon rêve, elle ne ressemblait pas à une vivante. Elle n'avait pas de couleur. Si tu arrives à prendre un objet qui lui appartient, une trousse, un habit ou même un cheveu, je peux essayer de deviner ce qu'elle est. Moi aussi, je peux, rétorqua Verte. C'est plus facile pour moi. Toi, tu as déjà tellement d'émotions que tu ne verras rien. Sincèrement, ça me fait pas très plaisir que tu vois quelque chose que je n'arrive pas à voir. En plus, tu as un garçon. Là, vraiment, elle m'a énervée. Fais comme tu veux. Je disais ça pour t'aider, mais arrête d'être sexiste, c'est bête. Ce n'était pas très malin de se disputer, alors qu'on s'entendait si bien 5 minutes plus tôt. Le résultat, c'est qu'elle ne m'a pas rappelé. Plus grave, ni elle ni Pomme ne sont venues à l'entraînement du mercredi. Je me suis dit qu'elles étaient vexées et les choses en sont restées là. J'aurais dû me méfier. Quand vos amis s'enferment chez eux, c'est rarement parce qu'ils sont en pleine forme.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow said, I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, be merry and bright. And may all your Christmases be white.
I am dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to make. En conclusion, évoquons un joyeux conte de Noël. C'est l'ourson le plus célèbre d'Angleterre et j'ai le plaisir de lui prêter ma voix au cinéma. Un petit peu de promo, ça ne peut pas faire de mal. Vous aurez reconnu Paddington, le héros de Michael Bond. Voici un extrait du second tome de ses aventures, intitulé « Les secrets de Paddington », publié chez Michel Lafon dans une traduction de Jean-Noël Chatin. C'est la veille de Noël. Découvrons ce que nous réserve l'intrépide farceur. Quand ils furent tous installés autour d'une belle flambée dans la cheminée, Paddington prit soudain un air mystérieux. « Si vous allez tous dans l'autre pièce, annonça-t-il, j'ai une surprise très spéciale pour vous. »« Oh, vraiment, Paddington ?» dit Mrs. Brown. « Mais il n'y a pas de feu de cheminée à côté. »« Je n'en ai pas pour longtemps, » répliqua-t-il d'un ton ferme. À ces mots, il tint la porte ouverte et les Brown, Mrs. Burt et Mr. Gruber sortirent dociles en file indienne. « Maintenant, fermez les yeux, » dit Paddington quand ils furent tous installés. « Je vous dirai quand ce sera prêt. » Mrs. Brown frissonna. « J'espère que ce ne sera pas trop long, » lança-t-elle. Mais la seule réponse qu'elle obtint fut le cliquetis de la porte qui se refermait. Ils attendirent de longues minutes en silence, puis Mr. Gruber s'éclaircit la voix. « Vous pensez que le jeune Brown nous a oubliés ? » demanda-t-il. « Je n'en sais rien, » répondit Mrs. Brown, « mais je n'attendrai pas davantage. »« Henry ?» s'exclama-t-elle en ouvrant les yeux. « Tu t'es endormi ?»« Comment ?» grogna Mr. Brown, qui avait bien mangé et somnolait plus ou moins. « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai manqué quelque chose ?»« Il ne se passe rien, » dit Mrs. Brown. « Tu ferais bien d'aller voir ce que Paddington mijote. » D'autres longues minutes s'écoulèrent encore avant que Mr. Brown ne revienne, le teint pâle, leur annoncer que Paddington avait disparu. « Enfin, il est forcément quelque part, » dit Mrs. Brown. « Les ours ne se volatilisent pas comme ça. »« J'ai deviné, » s'écria Jonathan alors qu'une idée venait de lui traverser l'esprit. « Il joue peut-être au Père Noël, non ?»« Il posait des tas de questions l'autre jour en glissant sa lettre dans la cheminée. Je parie qu'il nous a fait venir parce que celle-ci n'est pas allumée. »« Le Père Noël ?» rétorqua Mr. Brown. « Je vais lui en donner du Père Noël, moi. » À ces paroles, il passa la tête dans la cheminée et appela plusieurs fois Paddington. « Paddington ?» « Je ne vois rien, » reprit-il en craquant une allumette. En guise de réponse, un gros paquet de suie dégringola du conduit et s'écrasa sur sa tête. « Regarde ce que tu as fait, Henry, » s'exclama Mrs. Brown. « En criant, tu as déplacé la suie qui a atterri sur ta chemise toute propre. »« Si c'est le jeune Brown, il est coincé quelque part, » suggéra Mr. Gruber. « Il a beaucoup mangé. À table, je me suis même demandé où il emmagasinait toute cette nourriture. » À la remarque de Mr. Gruber, tout le monde prit un air grave. « Il risque de suffoquer avec les émanations !» s'exclama Mrs. Bird en se précipitant vers la cuisine. Lorsqu'elle revint, armée d'un balai à franges, ils se glissèrent à tour de rôle dans la cheminée en l'agitant, se couvrant toujours plus de suie. Mais ils avaient beau tendre l'oreille, rien. Quand la panique atteignit son comble, Paddington fit tranquillement son apparition dans la pièce. Il s'étonna de voir la famille Brown la tête dans la cheminée. « Vous pouvez revenir dans la salle à manger, » claironna Paddington.
« Ne me dis pas que tu étais simplement dans l'autre pièce pendant tout ce temps, » balbutia Mr. Brown, qui s'assit et s'essuya le visage avec un mouchoir.
« Si, » répondit Paddington d'une voix innocente, « j'espère ne pas vous avoir fait trop attendre. » Mrs. Brown regarda son mari. « Henry, j'ai cru que tu avais cherché partout, » s'exclama-t-elle. « Eh bien... « Comme nous sortions de la salle à manger, » dit Mr. Brown l'air penaud, « je ne pensais pas qu'il y serait, parbleu. » Paddington parut intrigué quand ils lui expliquèrent ce qui s'était passé. « Je n'ai jamais eu l'idée de descendre par la cheminée, » déclara-t-il en contemplant celle-ci. « Eh bien, ne t'avise pas non plus d'y penser maintenant, » rétorqua Mr. Brown avec sévérité. Mais il se calma en suivant Paddington dans la salle à manger. Outre les présents déjà posés au pied de l'arbre de Noël, il y en avait 6 nouveaux, emballé et noué aux branches les plus basses. « Vraiment, Paddington, » dit Mrs. Brown, émue, « je suis très fâchée. Tu n'aurais pas dû dépenser tout ton argent pour nous. Nous avons vraiment de la chance d'avoir un ours comme toi à la maison. » Quand chacun eut ouvert son paquet, Paddington reçut encore un présent de Mr. Gruber. L'ourson poussa un cri de surprise en déballant un superbe album relié en cuir.
« Je sais que vous aimez raconter vos aventures par écrit, cher Paddington, » dit Mr. Gruber. « Et il vous en arrive tellement que votre album de souvenirs actuel doit être presque rempli. »
En effet, admit Paddington avec gravité. Et je suis certain qu'il va m'en arriver des tas d'autres. Comme toujours. Mais dans cet album, je ne raconterai que les meilleurs. Ce soir-là, dans sa chambre, Paddington écrivit dans son album, en lettres capitales, « Mes aventures, chapitre premier, avec un « et », l'accent aigu. Paddington susauta son porte-plume d'un air pensif, puis referma la bouteille d'encre avec soin avant qu'elle ne se renverse sur les draps. Avec tous les rebondissements de la soirée, il avait trop sommeil pour continuer à écrire. Mais ce n'était pas grave. Demain, il ferait jour, et il vivrait à coup sûr de nouvelles aventures, même s'il ignorait encore lesquelles.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Bestugia avec à la technique Stéphane Touvenin. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Et un grand merci à nos deux champions de la lecture. Merci Lina.
Ça m'a fait très plaisir de venir.
Bah, c'est gentil. Merci Philémon.
Bah, merci à toi.
Une prochaine, j'espère. Joyeux Noël et bonne fête à tous.